Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier épisode du Feel Better Podcast. Je suis super contente d'être là, ça fait un moment que j'avais envie de créer une communauté qui serait tournée autour de la bienveillance, du partage d'expériences et qui encourage le développement de soi, l'amour inconditionnel de soi-même, la prise de recul et la prise de pouvoir sur sa propre vie pour pouvoir se créer la vie de ses rêves. Tout ce que je partage ici, je le partage à partir de mes propres expériences, de mes propres recherches, des livres que j'ai pu lire, des gens que je suis et qui m'inspirent. Je pense que c'est important de préciser que je ne suis pas docteur. Ce podcast, c'est simplement un espace de partage de mon expérience, de ce qui a marché pour moi, pour les gens de mon entourage. J'ai ressenti le besoin de créer cet espace parce que j'ai moi-même eu beaucoup de difficultés à savoir qui j'étais, qui j'avais envie de devenir. Je me suis longtemps obligée à porter des masques pour apparaître tel que j'imaginais qu'on voulait que j'apparaisse. Des masques qui devaient me permettre dans ma tête de m'intégrer plus facilement à la société, d'avoir plus d'amis, de faire partie d'un groupe. Mais ça générait que de la frustration en fait, parce que les groupes dans lesquels je me retrouvais n'étaient pas alignés avec qui j'étais profondément. J'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte, ces masques n'étaient pas conscients. Parce que en fait, ils étaient construits au fur et à mesure de la vie qui arrive. Hein. C'est les attentes de la société, c'est les attentes de la famille, c'est les événements de la vie, tout simplement, hein, qui peuvent parfois être traumatisants. On construit tous des masques au fur et à mesure que la vie se déroule. Mais quand j'ai commencé à faire ce travail sur moi, à retirer ces masques, à creuser au fond de moi pour comprendre quelles étaient les blessures, les peurs qui m'avaient amené à les construire, mais aussi du coup mes envies et mes rêves réellement cachés au fond de moi, je me suis lancée sur un chemin qui m'a menée à apprendre à m'aimer, à réaliser que j'avais pas besoin d'être quelqu'un d'autre pour être aimée, pour avoir de la valeur, et au contraire même, qu'en étant moi-même et fidèle à mes valeurs, à mes envies, à ce qui me fait vibrer, j'avais en fait beaucoup plus de chances de créer des relations beaucoup plus riches de sens, que je m'offrais la possibilité de rêver plus grand, plus loin, que je m'offrais la possibilité de rêver mes propres rêves, en fait, pas ceux d'une personne que je disais être. Et c'est finalement la condition sine qua non pour réaliser ses rêves, c'est de commencer par oser les rêver. Donc bref, ce travail a été pour moi assez long et difficile, mais il m'a tellement apporté que je me suis longtemps demandé comment je pouvais partager mon expérience pour aider d'autres personnes à atteindre cet amour de soi qui apporte tellement de sérénité et de belles opportunités. Donc je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette présentation. On va rentrer dans le vif du sujet et j'avais envie de commencer par le fait de parler de nos émotions. Pourquoi on les ressent et comment on peut parfois se laisser contrôler par elles. Donc j'ai participé à un séminaire sur le leadership récemment dans le cadre de mon travail et la consultante nous répétait régulièrement en anglais « Think about what you think ». En français, ça donne « pense à ce que tu penses ». Elle expliquait que pour faire grandir notre pensée, pour réussir à devenir visionnaire de notre propre vie, pour pouvoir développer cette attitude de quelqu'un de confiant, de posé, qui sait où il va et comment il y va, la première étape fondamentale et non arbitrable était de s'arrêter et d'analyser ses pensées, de penser à ce que l'on pense. Je vous le partage aujourd'hui parce que je trouve que c'est super juste. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je parle de ça. Alors j'ai dit que j'allais parler d'émotions. Si c'est le cas, c'est parce que nos émotions et nos pensées sont intimement liées. Donc il y a plein de travaux qui ont montré ça. Moi je veux vous partager le modèle de Brooke Castillo, qui est une femme que j'admire beaucoup, qui a une chaîne The Life Coach School que je vous invite à suivre. Donc c'est une coach américaine qui forme aujourd'hui d'autres coachs, qui a fondé un empire dans le coaching. Et donc, la base de tout son travail, c'est ce qu'elle appelle le modèle. Et en fait, la notion en elle-même n'est pas inventée, mais c'est la manière dont elle l'aborde qui est, je trouve, super ludique. Et donc, je vais vous l'expliquer tout de suite. Ce qu'elle explique, c'est qu'un événement ou un contexte extérieur va venir créer une pensée, que cette pensée va générer une émotion et que cette émotion va elle-même mener à une action. Donc, dans l'ordre, on a contexte, pensée, émotion, action. Donc, c'est en fait, hyper simple, et pourtant c'est extrêmement puissant. Et donc on va le montrer dans quelques exemples. Alors je vais prendre le premier exemple de quelqu'un qui est en surpoids et qui a du mal à accepter son corps. Je prends cet exemple parce que je l'ai moi-même vécu, j'ai eu des problèmes avec l'image que j'avais de mon corps pendant de longues années. Et je pense que c'est un sujet qui est extrêmement répandu, et pas seulement au niveau du surpoids. C'est-à-dire que dans notre société, il y a quand même beaucoup d'attentes sur le corps idéal. Il ne faut pas être trop grand, mais il ne faut pas être trop petit. Quand on est une fille ou même un garçon, il faut avoir les yeux clairs, parce que c'est quand même plus joli. Il ne faut pas être trop grosse, mais il ne faut pas être trop maigre non plus. Puis les cheveux longs, c'est quand même plus joli chez une fille, sinon ça fait garçon. Puis pour les garçons, ah bah, si vous perdez vos cheveux, ouf, pas terrible. Bref, notre société, elle est pleine d'attentes et d'injonctions sur comment doit être le corps parfait, et on nous fait croire que si on n'est pas dans cet idéal-là, on perd notre valeur. Ce qui est évidemment complètement faux, mais ça génère tellement de mal-être chez tellement de gens. Je pense que du coup, c'était un bon exemple pour commencer et pour vous montrer que vous avez le pouvoir de changer l'impact du regard des autres sur ce que vous ressentez. Donc revenons à cet exemple, on va partir du principe que je me trouve à une soirée, je vois quelqu'un que je connais, puis je m'apprête à lui dire bonjour. Et puis là, il fait ou il dit quelque chose, et je me dis, il me trouve grosse. Donc la pensée, c'est, il me trouve grosse. Ça va générer chez moi peut-être de la colère, peut-être de la honte, peut-être de l'embarras, ou même de la tristesse. Cette émotion, en tout cas, elle va générer une action. Donc par exemple, je vais décider de quitter la fête, ou alors je vais rester mais je vais me recroqueviller sur moi-même et puis je vais plus aborder personne de la soirée, ou alors je vais compenser en buvant ou en mangeant un peu trop ce soir-là. Quoi qu'il en soit, mon émotion était négative, et donc il est fort probable que ma réaction le soit aussi, et en fin de compte le résultat, c'est que je vais passer une mauvaise soirée. Donc pour l'instant, il y a une pensée qui a généré une émotion, qui a déclenché une action. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui a déclenché cette pensée? Qu'est-ce qu'a fait la personne en face qui a fait que j'ai pensé « il me trouve grosse ». Donc on va prendre deux scénarios, parce qu'on peut apprendre différentes choses avec les deux scénarios que je vais présenter. Le premier, c'est que la personne, quand elle m'a vu m'approcher, elle a fait un mouvement de tête de haut en bas. Vous voyez, comme quand on reluque quelqu'un. Et elle le fait avec un air désapprobateur ou moqueur. Et elle n'a rien dit. Donc quand je dis déjà qu'elle a un air désapprobateur ou moqueur, en fait, je suis déjà dans l'interprétation. Donc je suis dans l'interprétation du mouvement de tête, peut-être que je suis dans l'interprétation d'un sourire que j'ai trouvé narquois, mais peut-être que finalement, elle m'a reluqué parce qu'elle trouve ma robe jolie, peut-être qu'elle a un sourire un peu forcé parce qu'elle a la tête ailleurs et qu'en fait, elle a passé une mauvaise journée et elle vient de recevoir des mauvaises nouvelles et que quand elle me dit bonjour, en fait, elle n'est même pas vraiment là, peut-être qu'elle n'a même pas vraiment conscience du mouvement de tête qu'elle vient de faire. Et donc, dans ce premier scénario, j'ai choisi, peut-être inconsciemment, mais j'ai choisi d'interpréter le comportement de la personne en face comme étant un comportement hostile. C'est ce qui génère la pensée « il pense que je suis grosse ». Petit aparté, une bonne partie de notre souffrance provient de l'idée que l'on se fait de ce que pense quelqu'un d'autre. Mais vous ne pouvez pas lire dans les pensées des autres. Donc, arrêtez de vous en soucier, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez à côté de la plaque quand vous supposez savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un d'autre. Dans notre cas présent, j'aurais pu choisir de prendre du recul sur mes pensées, de penser à ce que je pense, et de me dire « j'ai pas du tout assez d'informations pour tirer quelques conclusions que ce soit sur le comportement de la personne. Je ne sais pas pourquoi il secoue la tête. » Si je ne suppose pas savoir ce qu'il pense, je ne me dis plus « il pense que je suis grosse ». Donc si je me dis plus, si j'ai plus cette pensée, je ne pense rien de particulier de la situation, mes émotions ne sont pas impactées. Si mes émotions ne sont pas impactées, je ne passe pas une mauvaise soirée. Deuxième scénario, cette fois la personne a clairement un comportement hostile. C'est-à-dire que par exemple, vous arrivez, vous lui dites bonjour, et elle vous dit bah, « tiens, tu ne devais pas faire un régime, toi ». Ok, donc là, l'intention est clairement de signifier qu'elle vous trouve en surpoids, elle a un jugement de valeur sur la situation. Mais là encore, vous avez le pouvoir de penser à ce que vous pensez, et vous pouvez décider que ce qu'il pense de vous n'a aucun lien avec la valeur que vous avez, et que par conséquent, ça ne va pas vous empêcher de passer une bonne soirée. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut accepter d'être maltraité et de le faire avec le sourire, surtout pas. Je dis qu'on peut choisir de ne pas en faire une affaire personnelle, de ne pas remettre en question sa valeur à cause du regard d'un autre. Votre valeur, elle est intrinsèque, elle est en vous, personne ne peut vous l'enlever. Et dans ce cas, l'émotion ressentie, ça peut être par exemple de l'indifférence, ou de la désapprobation par rapport à un comportement qui n'est pas bienveillant. Mais du coup, l'action derrière, elle peut se résumer à rembarrer la personne ou à l'ignorer. Et en fin de compte, vous allez passer une bonne soirée. Vous n'allez pas vous recroqueviller sur vous-même. Vous n'allez pas vous réduire parce que vous n'osez pas être qui vous êtes. Vous comprenez la différence entre les deux exemples? Vous comprenez le pouvoir que l'on obtient en apprenant à détourner ses pensées? On prend le contrôle sur sa vie, on ne laisse plus un événement extérieur, une personne extérieure, une remarque nous empêcher de nous sentir bien, belles, heureuses, épanouies. Dans cet exemple-là, il s'agit de passer ou de ne pas passer une bonne soirée. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Si on prend l'habitude de régulièrement prendre du recul sur nos émotions, si on prend l'habitude de comprendre quelles sont les pensées qui génèrent nos émotions, puis de se demander comment je pourrais penser autrement, on libère un potentiel créateur qui est absolument incroyable. On crée des schémas de pensée qui sont plus positifs, qui nous nourrissent. Et plus on le fait, plus on prend confiance en soi. Plus on accepte qui on est, plus on apprend à s'aimer. Vous voyez à quel point c'est puissant ? La clé ici, elle est de comprendre que la seule chose sur laquelle nous n'avons pas le contrôle, c'est le contexte ou l'événement extérieur. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui décide de faire preuve de méchanceté. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui manque de tact. On ne peut pas contrôler quelqu'un qui a un comportement qui n'est pas le comportement qu'on attend de lui. En revanche, ce qu'on peut contrôler, c'est comment on réagit par rapport à ça. On peut décider de changer nos pensées face à un événement en prenant du recul sur notre réaction initiale et en pensant à ce que l'on pense. Quand on prend le contrôle sur ses pensées, on prend le contrôle sur l'émotion qui en découle et donc sur l'action qui est générée derrière. Et ça, c'est une excellente nouvelle parce que ça veut dire que vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez dans votre vie. On va prendre un deuxième exemple, plus rapidement. Les relations amoureuses. Donc là, c'est pareil, ça va parler à plein de monde, normalement. Combien de fois vous êtes-vous dit « j'aimerais qu'il soit plus attentionné, j'aimerais qu'il me dise plus souvent qu'il m'aime » et derrière, vous commencez à penser qu'il ne vous aime pas autant que vous l'aimez. Ça va générer, en termes d'émotion, de la frustration, de la peur, du ressentiment, de la tristesse. Et l'action qui va en découler, ça va être une déconnexion dans le couple, voire même des disputes. Mais si vous pensez, nous n'avons pas le même langage de l'amour, et je ferai un épisode sur les différents langages de l'amour, je pense à l'avenir, je ne sais pas encore quand, mais je pense que c'est un sujet intéressant. Si vous pensez, nous n'avons pas le même langage de l'amour, il ne me dit pas assez souvent « je t'aime », mais il me le montre. Il m'enlace souvent, il me rend service, il est à l'écoute de mes besoins. Du coup, la pensée, c'est « je sais qu'il m'aime ». Je peux comprendre que nos langages de l'amour sont différents et je ne remets pas en question notre couple. Dans ce cas, l'action, ça va être de lui exprimer mon besoin d'exprimer oralement notre amour, car c'est mon langage à moi, l'expression orale. Et donc, il en découle une discussion ouverte où on va apprendre à mieux se connaître. Et en fait, on va créer une connexion plus approfondie. On va créer un échange dans lequel on va se rendre vulnérable à l'autre. Et on va créer une connexion à la fois mentale et physique. Et donc, on va approfondir notre relation de couple. Et dans cet exemple, on n'a pas parlé du comportement du partenaire. Parce que déjà, vous seul, vous avez le pouvoir de changer la dynamique de votre couple. Donc cela étant dit, vous allez me demander, mais comment on fait pour penser à ce que l'on pense ? Pas de secret ici. Il faut s'entraîner, ça vient avec la pratique. Et remplacer des schémas de pensée qu'on a tenus pendant des années, c'est pas du tout une mince affaire. Notre cerveau, il est fainéant. C'est prouvé scientifiquement, il aime l'habitude, le connu, rester dans sa zone de confort. Donc il nous pousse à rester dans le connu, même si le connu, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc la première étape, ça va être d'analyser. On l'a dit et redit maintenant, il faut penser à ce que l'on pense. Et au début, vous n'allez pas pouvoir simplement vous dire « Ok, je pense que c'est noir depuis 10 ans, je vais simplement me dire « Tiens, c'est blanc ». Non. Vous êtes convaincu que c'est noir. Votre cerveau, il est fainéant, mais il n'est pas bête. C'est pas parce que vous lui dites que c'est blanc, alors que ça fait 10 ans que vous lui dites que c'est noir, qu'il va dire « Ah bah ok, c'est blanc ». Et c'est là qu'il va falloir faire preuve de patience et surtout de bienveillance envers vous-même. Je reprends l'exemple de la personne en surpoids. Si elle est mal dans son corps, elle a probablement déjà essayé 60 régimes et autant de programmes d'exercice. Mais il n'y a rien qui a marché. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à tenir un régime ou un programme d'entraînement ? Ne pas tenir un programme, c'est un résultat. Donc c'est l'action. Dans ce cas-là, c'est une inaction. L'inaction, elle est générée par une émotion. Donc par exemple, et ça c'est à vous de l'analyser, mais par exemple, ça peut être de la peur. L'estomac qui se noue au moment de devoir commencer l'entraînement. Pourquoi est-ce que je ressentirais de la peur ? Parce que mon schéma de pensée, c'est cet entraînement, il va me faire souffrir. Ok ? Pourquoi on pense qu'il va nous faire souffrir ? Parce que je ne suis pas à la hauteur. Ok, pourquoi on ne serait pas à la hauteur ? Parce que je n'ai jamais été et je ne serai jamais une sportive. Pourquoi on penserait ça ? Mais parce que quand j'étais enfant, on me répétait tout le temps que j'étais l'intellectuel de la famille et que c'était mes sœurs, les sportives. Ok, donc on commence à arriver à quelque chose. Vous voyez, quand on tire le fil de la pensée, on est en train de se ramener à quelque chose qui nous a marqué quand on était enfant. Quand vous allez commencer à comprendre vos schémas de pensée, vous allez vous rendre compte que certaines de vos pensées vous desservent. Vous allez vouloir vous dire, mais pourquoi je pense comme ça ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ? Pourquoi est-ce que 20 ans plus tard, je pense toujours que je suis nulle sportivement pour un truc qu'on m'a dit quand j'avais 10 ans ? Je suis adulte, je vais faire la part des choses, je sais que c'est idiot, pas vrai ? Ça parle à certains d'entre vous ? Combien d'entre vous ont déjà manqué de tolérance envers vous-même ? Si vous remarquez que vous commencez à vous en vouloir, à vous battre vous-même parce que vous ne comprenez pas pourquoi vous pensez comme ça, s'il vous plaît, prenez 2 minutes de recul et demandez-vous comment je réagirais si ma sœur ou ma mère ou ma meilleure amie, n'importe qui que vous aimez, se confiait à moi sur ce sujet. Est-ce que vous lui diriez « Non mais vraiment, t'es pas fini toi, quelle idée de penser comme ça ?» Ça m'étonnerait. Vous lui diriez d'être tolérante avec elle-même, de prendre du temps pour accepter la situation telle qu'elle est et de ne pas s'en vouloir. Et c'est exactement ce que je vous dis aujourd'hui. Soyez bienveillant avec vous-même. Apportez-vous de l'amour, prenez le temps qu'il faut. Quand vous aurez pris le temps de comprendre d'où vient cette pensée, quand vous l'aurez observée, puis acceptée et que vous vous saurez pardonner, alors vous pourrez vous demander qu'est-ce que je pourrais penser à la place. Quelle émotion est-ce que j'aimerais ressentir et quelle est la pensée qui m'amènera à cette émotion ? Conscientiser nos pensées, nos traumatismes est un outil extrêmement puissant. Une fois que j'ai identifié que mon passé m'amène à penser que je ne suis pas sportive et que je ne le serai jamais, une fois que j'ai observé, une fois que j'ai accepté que c'est cette pensée et que je suis prête à me pardonner d'avoir été si dure avec moi-même, je peux me demander qu'est-ce que j'aimerais ressentir quand je vais faire de l'exercice. J'aimerais ressentir de l'excitation, j'aimerais ressentir de l'impatience de voir si je bats ou pas mon chrono. J'aimerais ressentir de la sérénité parce que je fais une activité qui me plaît. Et donc, quelle est la pensée qui peut m'amener à cette émotion ? Par exemple, je pourrais penser « mon corps est une machine puissante et impressionnante et je peux tout faire avec lui ». Ou « je respecte mon corps et je lui fais faire des activités qui sont bonnes pour lui et qui sont douces pour moi-même ». Et petit aparté encore une fois, si vous détestez courir, ne vous infligez pas ça. Trouvez une activité plus douce, comme la piscine ou le yoga. Si vous vous battez sans cesse contre vous-même, vous n'allez jamais vous en sortir. Je ferme l'aparté. Vous pourriez également penser « je suis capable de faire tout ce que je décide de faire ». Vous voyez, vous allez commencer à vous répéter ces phrases-là. Vous n'allez pas y croire tout de suite. Mais vous allez commencer à bouger. Et vous allez continuer à répéter ces mêmes phrases, en y croyant de plus en plus. Et avec le temps, ça finira par devenir naturel. Mais ça prendra du temps, parce qu'il faut que votre cerveau change sa zone de confort. Il faut qu'il comprenne que ce nouveau schéma de pensée n'est pas une menace, mais au contraire est bon pour vous. Mais une fois que c'est inscrit dans votre cerveau, une fois que c'est votre nouvelle zone de confort, c'est gagné, parce que votre cerveau, il ne voudra plus revenir en arrière, il aime sa zone de confort. Vous comprenez pourquoi c'est puissant, encore une fois ? Si vous traitez uniquement le résultat, si vous traitez uniquement le « je suis inactive », vous allez vous forcer à être actif et vous n'allez pas traiter la cause. Vous allez passer votre vie à vous battre contre vous-même, contre votre cerveau. C'est une torture quotidienne. Vous allez forcément finir par perdre. Alors qu'en vous attaquant à votre cause racine, oui, ça prend du temps. Oui, ça peut parfois être inconfortable de se plonger au fond de soi pour comprendre nos pensées, notamment lorsqu'on ressent de la honte, par exemple. On n'a pas toujours envie d'affronter ce que l'on ressent. On préfère l'enterrer bien profondément, pour bien l'ignorer. Mais ça ne marche pas d'ignorer ce qu'on ressent. Donc une fois que vous aurez fait le travail, ce qui vous attend, c'est une libération. C'est une pensée plus positive, c'est la réussite de vos objectifs, c'est la croyance profonde que rien n'est impossible. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus de l'importance d'apprendre à analyser ses pensées, que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me suivre sur ma page Insta, le lien est sur la page du podcast. Pour vous aider à analyser vos pensées, j'ai créé un petit guide avec 3 exercices à faire qui aident à la fois à analyser ce que l'on pense et à adopter un mode de pensée plus positif. Je l'ai appelé le petit baromètre de l'humeur, c'est complètement gratuit. Il y a également le lien sur la page du podcast. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, on abordera le sujet de la vulnérabilité. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à bientôt !